Salut les voisins, l'émission qui va suivre est une rediffusion, restez à l'écoute.
7 milliards de voisins, avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, à table, et oui, c'est bientôt l'heure si vous nous écoutez en direct sur RFI, mais le contenu de l'assiette n'est qu'un prétexte pour retracer une histoire culturelle de la France à table et au-delà, celle d'une société face aux évolutions du monde. Du rationnement de la guerre à l'abondance d'aujourd'hui, l'arrivée des hypermarchés, de l'agroalimentaire, de l'électroménager dans les cuisines, puis la quête du biologique, de l'authentique, transforme notre rapport à la nourriture. Le repas à la française, avec sa pause déjeuner, originale pour le reste du monde, est classé au patrimoine culturel et immatériel de l'humanité, de l'UNESCO, pour sa convivialité, pour le plaisir du goût ou encore ses liens avec les terroirs. Mais le premier restaurateur français s'appelle pourtant McDonald's. Alors pour comprendre tous ces paradoxes et puis regarder aussi dans l'assiette de nos voisins, de ce que nous réserve l'avenir, mon invité, Jean-Louis André, bonjour.
Bonjour, bon appétit.
Vous êtes journaliste spécialisé dans l'alimentation, la gastronomie. Vous publiez « Dis-moi ce que tu manges, une histoire de la France à table » chez Odile Jacob. Et puis en fin d'émission, nous donnons la parole régulièrement dans cette émission aux enfants avec notre série « Le monde des enfants ». Aujourd'hui, des filles de 9-10 ans dans la campagne de Lyon débattent de l'amitié. Et toute cette série, « Le monde des enfants » sur des sujets universels, est disponible en podcast. Elle est signée Charlie Dupio.
C'est prêt !
On va dîner, hurrah !
Super. Pas de dessert, hein ?
Non. Non, mais une autre pizza, par contre. La même.
Ça roule.
Merci beaucoup.
Il a tout mangé ?
Tout ! Tout ! Il ne me reste rien dans ma cuisine ! Pas ça !
Il va falloir trouver autre chose à manger, maintenant.
Laisse, je m'en occupe.
Allez, vous commandez quelques pains, s'il vous plaît.
Je vais au supermarché. Pratique.
Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Euromarché est heureux de vous accueillir dans son nouveau magasin. Et dans quelques instants, notre directeur viendra lui-même couper le ruban symbolique.
Madame, vous achetez souvent des produits surgelés ?
Ah oui, j'en achète très souvent.
Qu'est-ce que vous achetez dans les produits surgelés ?
Des poissons.
Et vous madame ?
Moi j'achète en hiver, j'achète des légumes et puis en été j'achète le poisson.
Qu'est-ce qu'on lui donne à manger ?
Il y a des surgelés dans le frigidaire et des œufs, je crois.
Servir arrosé d'un jus de citron, de beurre fondu persillé, et vous pouvez l'accompagner d'une sauce tomate aromatisée.
Pierre Bernadette, vous êtes prêts ? Jean, on peut dîner quand vous voulez.
Parfait. Alors à table.
Jean-Louis André, je vous ai vu sourire. C'est signé Romain Dubrac, hein. C'est sa vision aussi de l'histoire de la France à table, mais ça colle assez bien avec ce que vous racontez dans votre livre. Dis-moi ce que tu manges, une histoire de la France à table.
Oui, cette espèce de France un peu rétro, forcément rétro, puisque ce qui remonte, ce sont des souvenirs qui sont à la fois des souvenirs intimes et des souvenirs collectifs. On est à la fois seul devant sa table et en même temps, on est avec tous les autres.
Oui, alors ça dépend bien sûr aussi des générations. La France, pour ceux qui sont nés il n'y a pas si longtemps, il faut quand même se souvenir que la France a eu faim il n'y a pas si longtemps. C'était pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'occupation allemande, le rationnement, le manque de produits laitiers, de viande et de beaucoup d'autres choses d'ailleurs.
Et l'abondance de choses, de succès d'années de ce qu'on en aimait, c'est-à-dire il n'y a plus de pommes de terre, il y a des rutabaga, des topinambours, et ça reste un traumatisme qu'on a encore aujourd'hui. Moi j'entends encore mes parents dire non, je ne veux pas manger les topinambours, les légumes oubliés, je ne veux pas l'entendre parler, c'était pendant la guerre qu'on mangeait ça, j'ai grandi à ça et j'en veux pas.
Est-ce que ça a conditionné la suite de nos assiettes pendant plusieurs décennies ou pas, ce rationnement, ce manque de nourriture, tout de même d'aliments importants, notamment pour la croissance des enfants, le lait, la viande.
Pendant des années, ça a été le retour des calories. C'est-à-dire que bien manger, c'était manger beaucoup. C'était beaucoup manger de viande aussi et beaucoup manger de pain. On a tous eu des grands-parents qui nous disaient « Mais mange du pain avec ta viande, mange du pain avec ton fromage, mange du pain avec n'importe quoi. » Je connais des gens qui mangent du pain avec les pâtes, avec la pizza, enfin, c'est un truc. Pourquoi ? Parce que ne pas manger du pain, c'était considérer qu'on avait suffisamment à manger pour être aristo et pas avoir besoin de se remplir le ventre.
Ouais. Alors, il y a le pain, il y a ce déluge de viande, comme vous dites, dans l'après-guerre, les années 50, 60, pour les privilégiés, hein, parce que il y a les abattoirs de la Villette à Paris qui fonctionne jusqu'en 1974.
Hein. Fou, hein.
Mais en fait, à la campagne, c'est une tranche de lard dans une soupe. Et comme vous l'écrivez dans votre livre, un ou deux cochons nourrissent la famille tout au long de l'année.
Tout au long de l'année. Et la charcuterie, comme ça l'est encore parfois, c'est d'abord une manière de conserver la viande. C'est de là que ça naît. C'est un moyen de conserver les choses.
Et de tout consommer.
Et de tout consommer. Bah, c'est, oui, dans le cochon, tout est bon, oui.
Et puis un déluge de vin. Donc beaucoup de rouge, hein. La viande rouge, le vin. En 1964, vous redonnez ce chiffre qui est quand même étourdissant, 136 litres de vin par an et par personne.
C'est fou, hein. Et c'est parce que le vin est intégré, on est moins peut-être sensibilisé au problème, aux méfaits de l'alcoolisme ou de l'alcool tout simplement. Et le vin est intégré tout simplement dans les rations alimentaires. C'est-à-dire que le vin est une manière, fait partie de la nourriture, de l'alimentation. C'est calorique aussi, c'est une manière de prendre des calories, du sucre. Donc ça fait partie. Et il faudra attendre effectivement Mendès France pour que le vin soit supprimé des cantines des écoles, des cantines des écoles primaires. Il y avait la carafe de rouge sinon. Et c'est à l'époque tellement choquant que, en plus il y a des petits relents antisémites, que Robert Poujade, c'est Mendès France, donc qui est juif, Poujade dit « si ce monsieur avait une goutte de sang français, il n'aurait jamais supprimé le vin des cantines
». Déjà la théorie du complot.
7 milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
En 1950, le revenu moyen d'un paysan ne représente que 60% de celui d'un citadin. Donc vous dites, pas de quoi faire des folies chez le boucher. Ça veut dire que dans cette France de l'abondance de l'après-guerre, il y a quand même de fortes inégalités, de fortes différences sur le territoire.
Oui, c'est la France du bœuf contre la France du cochon, hein, finalement. La France du cochon qu'on mange surtout en campagne, et la ville, elle, mange du bœuf. Le bœuf, c'est le synonyme. Et il y a un outsider qui arrive là-dedans, c'est le cheval. Pourquoi on n'a jamais autant vu fleurir de boucheries chevalines que dans les années 50? Pourquoi? Parce qu'il arrive le tracteur dans les champs. Et comme il y a le tracteur dans les champs...
Grâce au plan Marshall, d'ailleurs.
Grâce au plan Marshall, les paysans qui se modernisent, etc. Et comme il y a des tracteurs, ça met le pauvre cheval au chômage. Et le cheval au chômage, on va le manger. Et on va du coup faire croire que c'est meilleur, que c'est la meilleure viande du monde, etc.
Et on a mangé du cheval jusqu'à quand?
On mange encore un peu, hein. Il y a encore quelques boucheries chevalines, hein, mais ça a baissé à partir des années 80, ça a quasiment disparu de l'alimentation des Français.
L'industrie agroalimentaire arrive finalement à la faveur de quelle grande transformation? C'est une invention américaine.
C'est une invention américaine, d'abord, et puis ça arrive, moi je pense que ça arrive d'abord à la faveur d'une transformation urbaine, quasiment. C'est-à-dire que tout d'un coup, on se met à ne plus habiter les centres-villes, à habiter dans la périphérie. C'est le début des ZUP, des HLM, des constructions des villes tentaculaires, de la tâche urbaine, comme on dit même en Europe et en Afrique, aussi d'ailleurs la grande tâche urbaine qui s'étend. Et à partir du moment où la population va vivre à l'extérieur, oui. Il va falloir...
On n'a plus de quoi manger au jardin.
Il n'y a plus de quoi manger au jardin et on n'a plus de quoi manger au centre-ville. Il faut aller le chercher. Donc il va falloir créer des nouveaux centres d'alimentation, des centres concentrés, ça s'appelle les hypermarchés, les supermarchés, puis les hypermarchés qui vont donc aller à la rencontre de ce public.
Ouais, et de ce public qui justement a tant manqué pendant la guerre, il y a quand même un traumatisme qui est resté durablement, et qui de cette nouvelle culture de l'abondance de l'après-guerre est heureux de faire coïncider l'agroalimentaire avec l'abondance, bien que l'Amérique n'ait pas connu cette pénurie.
Bien que l'Amérique ne l'ait pas connue, oui, mais l'Amérique, elle a envie quand même, elle est gargantuesque quand même, tout se passe à grande échelle. C'est-à-dire que tout d'un coup, quand on le sait tous, hein, quand on va commander un jus d'orange le matin, pourquoi il y a un litre de jus d'orange pressé qui arrive? Ça m'enlève l'envie de l'avoir. Donc il y a un côté un peu grande échelle pour tout ce qu'on fait et qu'on va petit à petit essayer d'imiter. Mais l'idée, c'est quand même d'arriver à nous nourrir tous. On en est toujours là, au fond, à l'échelle humaine, hein, arriver à nous nourrir tous. Est-ce que ça peut se faire autrement qu'en industrialisant un peu les processus? C'est ce qui se passe dans les années 50 en Europe et en France.
Peut-être aussi pour gagner du temps, moins cuisiner.
Oui, bien sûr, gagner du temps, s'organiser. L'organisation en filière, par exemple, est très importante. À partir du moment où vous dites, vous avez des supermarchés ou des hypermarchés, ils ont besoin de s'approvisionner à des gens qui soient sûrs, en quantité, donc il leur faut des quantités constantes. Donc on va organiser les productions en filières et non pas, on ne va plus aller voir le petit producteur, il va y avoir le grossiste, etc. Donc
toujours avec la même qualité aussi.
Et avec une qualité constante. Ouais. Mais alors, cette qualité constante, c'est assez amusant parce que c'est à la fois l'avantage de l'agroalimentaire, mais aussi son arrêt de mort. Parce que tout d'un coup, s'il y a un défaut dans la qualité, bah, ça donne des scandales alimentaires aujourd'hui qu'on connaît. Mais en gros, quand même, à partir des années 50, l'agroalimentaire est conçu et perçu très nettement comme un progrès social. Et même un progrès culturel.
Un progrès social, culturel, et un progrès aussi dans l'hygiène, tout de même.
Voilà, c'est ce que j'allais dire, un progrès dans l'hygiène. On ne peut pas, moi, quand je parle à ma mère de manger le cochon, de manger une côte de porc encore rosée, elle est horrifiée. Elle est horrifiée, parce qu'elle dit, mais le cochon, ça donne le ver solitaire. Parce que les élevages de l'époque, les élevages traditionnels, donnaient le ver solitaire. Si,
ça ne nous empêche pas aujourd'hui d'avoir des bactéries dans la sauce de pizza, et puis il y a eu le scandale de la vache folle, etc.
Oui, après, il y a les scandales alimentaires. Mais si aujourd'hui, par exemple, on peut manger... Il y a un chef français qui s'appelle Arnaud Daguin, qui invente, dans les années 60, il invente le magret de canard. On mangeait du confit de canard. Et invente le magret de canard, qui est une viande que l'on va consommer rosée. Et il m'avait expliqué très clairement, il m'a dit, mais 30 ans, je ne pouvais pas inventer ça. Parce que tout le monde se serait empoisonné. Les canards, ils pataugeaient dans de la boue sale, etc. Donc ça, c'est l'avantage quand même de l'agroalimentaire. Quand même.
C'est donc pour ça que le confit de canard, c'était une viande qui cuisait très très longtemps.
Pour tuer les bactéries, encore dans les pays où il n'y a pas de frigo.
Et qui était conservée dans la graisse de canard.
Absolument. Ouais.
Alors on va en parler beaucoup des méthodes de conservation, parce que ça a beaucoup changé le contenu des assiettes, et pas seulement en France, partout dans le monde. C'est le début de l'uniformisation aussi, ce que vous décrivez, dans un pays aux 256 variétés de fromages. Ça sera un processus très long de destruction massive quand même, grâce notamment à la pub télé, des pubs qu'on n'est pas prêt d'oublier si vous êtes né, en tout cas, avant les années 80.
C'est très difficile de trouver une star du fromage. Il ne faut pas être un fromage.
Trop banal, trop fort, trop maigre, suivant. Ah bah non, trop typé, trop lourd.
Pour être un grand nom du fromage et plaire à tout le monde, il faut avoir une sacrée personnalité. La vache qui rit, le fromage à part.
Régilet, écrémez vos repas, écrémez votre poids.
Le soleil vient de se lever, encore une belle journée, et il va bientôt arriver, l'ami Ricoré.
Voilà un petit florilège de pubs, il y a la vache qui rit, il y a le lait en poudre Régilé, ça on les a choisis aussi parce que nos 7 milliards de voisins parmi eux, il y en a qui ont également la même chose sur leur table, notamment sur le continent africain. Qu'est-ce que ça vous évoque, Jean-Louis André, ces publicités-là?
C'est la naissance des marques. Pourquoi la publicité et les marques vont ensemble? Parce que finalement, quand vous faites des marques, le but d'une marque, c'est de vous donner un produit constant. Le yaourt Danone, c'est le même, c'est ce qu'on vient chercher, c'est toujours le même goût. Mais en même temps, si vous êtes constant, vous êtes lassant. Donc il faut créer de la pub autour pour faire rêver, sinon le produit, c'est toujours le même. La dernière, c'était laquelle déjà?
Il y avait l'ami Ricoré, le Ricoré.
L'ami Ricoré, moi,
un café avec de la chicorée dedans. D'ailleurs, relan des rationnements de la Deuxième Guerre mondiale, où on a substitué le café par de la chicorée qu'on pouvait cultiver dans les jardins et qui ressemblait vaguement à du café. Et c'est resté ensuite.
Et c'est resté. Et l'ami Ricoré, moi, ce que j'aime, c'est ce qui convoque, c'est un produit quasiment artificiel, industriel. Et c'est un produit industriel qui va implanter dans les années 80 la mythologie de la campagne, de la douceur de vivre, des champs. C'est tout le paradoxe. Il y a Herta aussi. Herta, qui est quand même le grand fabricant de jambon, de charcuterie industrielle, qui nous raconte le goût des choses simples. Tout le monde, je suis sûr, a vu cette petite publicité où on voyait un gamin avec un petit béret. Il semblait sorti d'un film des années 50, en train de faire petite tournée son petit moulin au bord de l'eau. Pourquoi Herta avait besoin de nous raconter ça? Mais parce que toutes les marques avaient besoin de se donner une allure de campagne.
Plus on fonce dans l'agroalimentaire, plus on rassure le consommateur, finalement, en lui rappelant que c'est de la bonne bouffe, bien de chez nous, le camembert emballé dans un papier qui rappelle la Napa Caro rouge et blanche. Et vous écrivez dans votre livre, résumons, le système est vicié, notre vieux monde étouffe dans sa graisse en jetant la nourriture par les fenêtres. C'est bien simple, même les agriculteurs ne s'y retrouvent plus. Le 30 mai 1972, au journal de 13h, l'un d'eux, qui a un béret vissé sur la tête, est interviewé devant une citerne et il s'apprête à commettre l'irréparable, verser le lait qu'il vient de traire. C'est-à-dire que là, on découvre la monstruosité du gaspillage, parce que c'est les surplus, c'est la politique agricole qui déraille.
C'est ça, c'est les quotas, c'est tout ce scandale alimentaire qui est, enfin, et qui va déboucher sur la candidature de René Dumont. René Dumont, dont on se souvient qu'il avait écrit un livre qui était « L'Afrique noire est mal partie », quand même, qui était dans lequel il disait « Tel que c'est, ils ne vont pas pouvoir s'en sortir en matière alimentaire. Donc il faut repenser les règles de l'agriculture, de la nourriture, du partage de la nourriture, etc. » Donc c'est l'époque, dans les années, fin des années 70, où on dit « Il y a quelque chose quand même de vicié dans ce royaume-là. L'Occident court à sa perte. » Ça donnera une chanson, hein. « On est foutu, on mange trop ouais. » de Souchon.
Dans cette histoire de la France à table, mais qui rappelle beaucoup d'autres histoires de pays à table, il y a l'arrivée aussi de l'électroménager. Qu'est-ce que ça change finalement dans la façon de manger au quotidien, dans la façon d'appréhender la nourriture ?
L'électroménager, c'est d'abord le frigo. Le frigo, ma maman, elle se souvient encore, elle avait 20 ans, elle se souvient, elle me disait, mais j'en avais pas le frigo. Il est arrivé quand tu es né à peu près le frigo. Mais quand vous faisiez, ben, on mettait sur la fenêtre.
Et les œufs se conservaient dans le placard.
Oui, oui. Mais les œufs sont aussi conservés miraculeusement. Vous vous souvenez peut-être quand il y avait encore les œufs dans les bars sur le comptoir du bar. Et on cassait un œuf dur quand même, totalement interdit aujourd'hui. Gros péché. Hein.
Pour des raisons d'hygiène, oui, hein, c'est interdit aujourd'hui.
Pour des raisons d'hygiène. Donc voilà, cet électroménager est arrivé. Puis après, il y a eu les grands salons électroménagers. Et là, l'électroménager a finalement épousé la cause du moment où est venu en support un peu pervers, mais de la cause du mouvement qui était la cause de libération des femmes.
Ouais. Alors, il y a le couteau électrique pour couper le rôti de manière bien nette. Aujourd'hui, on se demande à quoi ça pouvait bien servir. Oh, ça n'existe
personne,
plus.
Personne ne se sert d'un couteau électrique.
Donc, c'est une espèce de tronçonneuse miniature, finalement, extraordinairement dangereux. Il y a la cocotte minute qui est censée libérer les femmes de la surveillance de la cuisson.
Ma mère, elle a vécu comme ça. Ma mère, je m'en souviens encore, c'est un vieux souvenir d'enfance, me disant, mais tu te rends compte, j'ai une cocotte, enfin, le disait à une voisine, j'ai une cocotte minute, mais tout d'un coup, au lieu de faire mon bourguignon, un bourguignon, tu mets 3 heures, là, c'est fait en 3 quarts d'heure, c'est fini. Donc, c'était, faut pas oublier quand même le slogan de l'époque qui est Moulinex libère la femme, dont l'acronyme était MLF.
Oui. les boîtes de conserve aussi.
Les boîtes de conserve, moi j'ai une tendresse, enfin je ne suis pas un grand amateur de conserve, mais j'ai une tendresse pour elles dans l'histoire. Elles ont joué un rôle dans l'histoire incroyable parce que les boîtes de conserve, elles ont élargi le palais des Français finalement. Il y a plein de choses qu'on n'aurait jamais connues si on n'avait pas eu, la sauce à l'italienne, Buitoni, c'est Buitoni et c'est la boîte. À l'origine, le cassoulet, si on le découvre dans le Nord, c'est parce qu'il arrive en boîte. Alors c'est pas du... C'est pas terrible, mais n'empêche que ça oblige le palais à s'ouvrir à des saveurs nouvelles. Si le plat préféré des Français aujourd'hui, ou un des deux plats préférés des Français aujourd'hui, c'est le couscous, c'est pas un hasard, c'est parce qu'il est arrivé. Alors moi j'ai de la chance, je suis de Marseille, donc à Marseille il est arrivé les pieds noirs.
Par le bateau.
Voilà, il est arrivé par le bateau, ou par les immigrés, donc il est arrivé, on avait des vrais couscous, on a des vrais couscous. Mais j'ai beaucoup d'amis dans le Nord ou dans l'Est qui me disent, mais moi le couscous pour moi c'était une boîte.
on parlait des modes de conservation. Il y a, vous parliez du frigo qui a évidemment changé beaucoup de choses. La congélation aussi. Alors moi, j'ai découvert dans votre livre que avoir un congélateur, c'était quand même assez coûteux. C'était pas indispensable. Et en fait, ça a d'abord marché dans les campagnes, précisément dans les endroits qui n'étaient pas les plus riches.
Oui, c'est intéressant parce qu'on a toujours tendance à penser que c'est par la ville que se fait le progrès, que s'introduit le progrès technique. Le congélateur, c'est par la campagne. Oui. Ben, tous ceux qui ont un jardin, ils savent ça. Hein. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a trop de haricots, il y a trop d'épinards. On a tué les poulets parce qu'il fallait tuer tous ensemble et puis on ne sait pas quoi en faire. Donc, il y a trop. Donc, c'est les premiers utilisateurs, ceux qui ont vraiment besoin du congélateur, qui ont eu vraiment besoin du congélateur, ça a été la campagne, c'est les gens des campagnes. Et ensuite, les gens des villes les ont imités.
Alors, mais ils avant, ont imité, il y avait... mais pour mettre autre chose dedans. pas le poulet, la poule du jardin, mais l'industrie agroalimentaire, le surgelé, les plats tout prêts qui arrivent pour les citadins.
Absolument.
qui rentre tard du travail.
Et il y a toute cette histoire aussi du développement, alors du matériel. Là aussi, c'est des souvenirs, mais on a commencé, on avait le freezer, ça ne marchait pas bien, parce qu'après, il y avait la porte qui se bloquait du freezer, avec le bac à glaçons, on mettait des produits. Puis après, il y a eu ces projets, je m'embrouille un peu, mais il y a eu ces réfrigérateurs avec le compartiment au-dessus. Alors, il y avait 2, 3, 4, 5 étoiles, il y avait différentes étoiles qui permettaient de faire des choses ou de ne pas les faire. Puis après, sont arrivés les vrais bacs de congélation, etc. Donc ça a été toute une épopée quand même, l'arrivée du congélateur. Il y a eu un moment, il a fallu que ce groupe EDF, les fabricants comme Vivagel, qui se sont groupés, plus les fabricants de congélateurs, pour convaincre les épiciers locaux d'acheter des congélateurs. Alors, on faisait des crédits incroyables pour qu'ils puissent s'équiper quasiment gratuitement. Ouais.
On ne croirait pas à quel point, finalement, cette histoire industrielle de la France a une vraie relation avec le contenu de nos assiettes. Jean-Louis André, vous racontez parallèlement à la table de tous les jours aussi les modes gastronomiques des grands chefs, où là aussi la révolution a été totale. On verra qui influence qui aujourd'hui. Est-ce que c'est le citoyen avec ses petites vidéos de recettes ou les stars de la cuisine, à moins que ce ne soit les deux. Et puis on verra aussi comment cohabite ce paradoxe français, un pays où l'on parle beaucoup, beaucoup de cuisine, et on ne mange pas forcément si bien. On en parle juste après Solar Project, Songe d'été.
Elle est sage la nuit qui se lève, près de moi comme une vieille amie. Elle me souffle à l'oreille des rêves, comme des secrets qu'elle me confie.
Écoutez RFI, on parle de cuisine aujourd'hui avec votre livre Jean-Louis André. Dis-moi ce que tu manges, une histoire de la France à table. Mais en fait, c'est une histoire qui concerne aussi beaucoup d'autres pays qui ont connu notamment la révolution de l'industrie agroalimentaire. Vous racontez bien dans votre livre quand même, il y a une histoire assez spécifique à la France. La cuisine est une passion française, mais un peu en trompe-l'œil. On est parmi les premiers consommateurs de poissons en Europe et pourtant les poissonneries mettent la clé sous la porte et c'est tout de même pas dans les supermarchés qu'on trouve forcément les meilleurs poissons, non ?
Non, d'autant qu'en plus, la mode de consommation du poisson a changé aussi. Maintenant, les poissons qui est découpé en filets. C'est terrible quand même.
Vous avez raison parce que nos amis qui nous écoutent sur le continent africain sont toujours très étonnés. Eux se font servir des poissons en entier, avec la tête, avec la queue, avec évidemment les arêtes. Et en France, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, On mangeait bien, vous êtes de Marseille, hein, c'est
oui.
ça on était bien servi sur le port par une belle dorade en ouais. entier, non ?
Ce qui est une hérésie hein, de ne pas avoir le poisson en entier. D'abord, de ne pas le voir, parce que si on veut savoir si un poisson est frais, il faut pouvoir regarder sa peau, ses écailles, ses
oui.
yeux, ses ouïes, etc.
Donc c'est pour ça que c'était important de voir le poisson en entier.
C'est important de regarder le poisson entier. Et puis après, le problème de la cuisson, c'est que c'est meilleur quand ça cuit avec des arêtes, un poisson, toujours.
Et alors, à partir de quand on a vu que des filets?
Ça, je crois que ça a 20 ans à peu près. C'est lorsque la poissonnerie devient un problème, enfin quasi-monopole des grandes surfaces, des hypermarchés.
Vous le dites dans votre livre, vous l'écrivez, « Savoir faire la cuisine tient d'un rituel initiatique cultivé par la télé-réalité, par les réseaux sociaux. Et pourtant, les restaurants qui servent des frites surgelées, des crèmes brûlées à partir d'un sachet tout prêt sont majoritaires. »
Alors ça, je pense que ça se passe pas ailleurs qu'en France. Là, on est dans un truc incroyable. Je pense pas qu'en Afrique, on ose faire ce qu'on fait en France. C'est-à-dire que tout d'un coup, le restaurant, il y a une chaîne, il y a un groupement de restaurateurs qui sont très respectables par ailleurs, mais qui, lorsqu'ils font la cuisine eux-mêmes, vissent sur leur restaurant une plaque en cuivre, comme s'ils étaient docteurs ou médecins, comme ça, docteurs ou notaires, en disant « la cuisine est faite maison ». Éprouver le besoin de dire chez nous les frites sont faites maison, c'est quand même un drôle de truc, non? Enfin, je sais pas, on l'imagine, c'est un restaurant, enfin vous êtes restaurant. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui est assez particulier à la France. À la fois, c'est presque schizophrénique hein, quand même, cette idée qu'on est à la fois les plus forts, les meilleurs, etc. Et qu'en même temps, curieusement, on a besoin de dire mais non, mais on fait vraiment la cuisine.
Oui, Moi, je me souviens d'un critique gastronomique dans notre émission chez 7 milliards de voisins qui nous disait il y a quelques années les restaurants à Paris qui servent des crèmes brûlées, 90% d'entre elles sont des crèmes toutes faites.
Mais bien sûr, mais bien sûr.
Ça semble incroyable.
C'est bien sûr, et on mange la cuisine de métro dans métro la marque, hein, pas du métro.
Métro mais... qui est une chaîne de grossistes pour les restaurateurs
voilà,
et les professionnels.
Une chaîne de grossistes pour les restaurateurs.
Voilà. Et puisqu'on parle des professionnels, les ventes d'ustensiles de professionnels marchent très très bien en France aujourd'hui. Tout le monde veut être hyper équipé.
Alors ça, c'est l'autre côté de notre schizophrénie. C'est en même temps, donc on a vu à quel point la pratique culinaire s'appauvrit en réalité, et en même temps, on veut tous faire la cuisine. C'est-à-dire qu'en même temps, on s'est tous réveillés cuisiniers, on s'est tous réveillés gastronomes. La cuisine est devenue savoir manger ou alors manger chez les grands chefs ou savoir faire des bons plats, savoir cuisiner, est devenue une marque de distinction sociale.
Quand on vous écoute, on se dit les Français seraient comme les Américains avec des placards où rien ne manque, sauf la réalité. C'est-à-dire qu'au quotidien, on mange mal, on mange McDo qui gagne du terrain.
Non, je pense que c'est plutôt une prise en main, tout le monde, une prise en main de sa propre pratique culinaire. C'est-à-dire qu'il y a effectivement à l'extérieur peut-être une cuisine à deux vitesses. On n'a jamais eu aussi une cuisine de luxe, une cuisine étoilée aussi forte et aussi prospère. Tout va bien de ce côté-là. Une cuisine de masse moins intéressante.
Intéressante qu'avant, sous-entendu.
Bien sûr. Oui.
Moins régionale.
Moins régionale. En revanche, peut-être quand même un vrai renouveau du fast-food. Parce qu'il ne faut pas non plus tout critiquer. Moi, je me souviens, quand j'avais 20 ans, c'était difficile de bien manger en voyage, dans une gare aujourd'hui. Malgré tout, aujourd'hui, on arrive à trouver des vrais sandwichs qui sont dans lesquels il y a des feuilles de salade à peu près correctes, etc. Vous n'aviez pas ça il y a 40 ans. Hein. Moi, je me souviens très bien, j'avais un bar à côté de chez moi et j'y allais et ils me coupaient des morceaux de cantal et les bars avaient le pain qui était mou souvent, etc. Donc quand même, la cuisine, par exemple, de dépannage a aussi fait des progrès.
Ouais. Et McDo qui continue de gagner du terrain, on va revenir en arrière jusqu'à ce fameux jour d'août 1999, une date importante pour l'histoire de McDo en France.
La cible, un restaurant en construction de la chaîne McDonald's. Plusieurs dizaines de personnes, essentiellement des producteurs de lait de brebis, ont saccagé le chantier. Les manifestants, proches de la Confédération paysanne, entendaient ainsi répondre à la décision américaine qui impose 100% de droits de douane sur le fromage de Roquefort. Rétorsions douanières qui ont fait suite à l'interdiction européenne d'importation de bœuf aux hormones américains.
Si on s'attaque aujourd'hui à McDo, c'est parce que McDo est le symbole de ces multinationales qui veulent nous faire bouffer de la merde et qui veulent faire crever les paysans.
les manifestants auraient détruit 50% du chantier, sans que les forces de l'ordre interviennent. Ils ont emporté symboliquement des matériaux de construction dans l'attente d'une levée des sanctions américaines.
Voilà, c'était en août 1999. José Bové, donc, qui sera condamné à 3 mois de prison ferme pour avoir, qui ressort
triomphant avec les triomphant de tout de cette, parce que finalement il a réussi son coup, qui est d'attirer l'attention sur ce qu'il voulait, sur le. Mais moi, ce que j'essaie de...
Mais ça n'a pas empêché la croissance de la chaîne McDonald's, qui aujourd'hui, vous le dites, est le premier restaurateur en France.
Non, et en même temps, il avait raison, José Bové, et tort à la fois. Parce que moi, ce que j'essaie de montrer dans ce livre, c'est que finalement, le fast-food, ou même le mal-manger, enfin, n'est pas simplement un pis-aller. C'est aussi parfois une revendication. C'est aussi, il y a ça qui se joue aussi dans la...
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Ben, je veux dire par là que quand on est jeune et qu'on a 20 ans, on n'a pas forcément envie de s'attabler pendant des heures, mais qu'on est content aussi de dire je vais au McDo et je t'emmerde.
Comment cohabite dans cette France schizophrénique pour sa cuisine, comme vous le disiez, Jean-Louis André, comment cohabite le fast pour le vite, hein, mot anglais, et le fast avec un E à la fin, c'est-à-dire le fast, la grande cuisine ? Comment ces deux fastes cohabitent ?
Justement, qu'il ne faut peut-être pas essayer à ce point de les opposer. Je crois qu'ils cohabitent bien, qu'on est tous, on s'est tous arrêtés un jour.
Ou ils s'ignorent, au contraire
Non, je ne sais pas. Enfin, McDo, peut-être pas, mais moi, ça m'arrive de manger dans un sandwich, ça m'arrive de manger vite, et puis ça m'arrive de manger chez un étoilé, puis ça m'arrive de manger chez un chinois. Je crois qu'au contraire, on va vers une cuisine presque post-moderne dans laquelle on accepte précisément des temps et des références différentes. Je crois. Alors, ce qui est plus dangereux, ce qui est plus... En revanche, c'est pas dans le manger à l'extérieur, mais ce qui est plus inquiétant, peut-être, c'est l'apparition d'une nourriture à deux vitesses. C'est-à-dire qu'on a d'un côté une nourriture...
Pour ceux qui n'ont pas de quoi s'alimenter correctement, quand même.
On a d'un côté une quête, qu'on va dire, un peu bobo, du local, du bio, du machin. Et puis après, on a des gens qui sont là à quêter les premiers prix dans de la nourriture extrêmement industrielle qu'on trouve dans les supermarchés.
Oui, donc la qualité ne s'est pas améliorée pour tout le monde. Vous faites bien de le rappeler. On y arrive doucement et lentement et sûrement au bio avec vous, Jean-Louis André, dans votre histoire de la France à table. Il y a d'abord les citoyens du monde, cette cuisine du monde, les pizzas, les nems vietnamiens, les plats chinois, l'arrivée des kiwis de Chine. Vous dites qu'il y a quoi, il y a 30 ans, on ne savait pas ce que c'était qu'un kiwi, ce petit fruit vert avec une peau rugueuse marron, hein, je le dis pour nos auditeurs qui sont ailleurs sur la planète et qui achètent d'autres fruits que les kiwis.
Depuis quelques années, il y a 2-3 ans, le kiwi jaune qui est meilleur que le kiwi vert.
Ouais, beaucoup plus cher. Mais alors comment c'est arrivé ça ? C'est le métier de la France, c'est le couscous qui arrive par le port de Marseille chez vous, ou il y a d'autres raisons aussi ?
Je crois que dans les années 80, on sait, enfin, ses propres années 80-90, hein, c'est la France, c'est aussi la phrase de Jack Lang, la France c'est comme une mobilette, ça marche mieux au mélange. Donc on va aller chercher un peu des références partout. Du coup, les chefs se prennent tous pour des baroudeurs, ils reviennent d'Asie en disant, regarde, oh, c'est incroyable, j'ai trouvé une recette, hein, tu prends un pot d'eau chaude, tu mets quelques épices, quelques étoiles d'anis, de banyan, et tu obtiens une soupe, elle est merveilleuse, etc. Donc c'est des espèces de chefs explorateurs. Moi j'en ai connu plein, hein, ils étaient tous un peu explorateurs. Et puis, ce qui était caractéristique, c'est qu'on avait une envie. Alors, il y avait ça paraît très démodé aujourd'hui, la fusion food, c'est-à-dire qu'il y avait...
Dit encore cuisine fusion.
Oui, mais c'était vraiment, à l'époque, c'était vraiment un étendard. Je crois que d'ailleurs, Ducasse est très mécontent quand on parle de ses débuts où il avait créé un restaurant qui s'appelait le Spoon. Le Spoon à Paris, dans lequel il disait, il n'y a pas de pays ici, j'ai tout mélangé, j'ai fait ma cuisine à moi en fonction de mes voyages. Enfin, il n'aime pas du tout quand on parle de ce truc-là.
Pour un grand chef, Alain Ducasse. Voilà. Vous avez entendu ? C'est là où on voit bien quand même, il y a des modes qui sont risibles. Mais l'air de rien, le repas s'individualise. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, vous le rappelez, qui est écologiste, a réussi à servir de la viande au menu des cantines des écoles de la ville seulement une fois par semaine, ce qui est quand même une révolution. Justement, sans déclencher tant que ça de protestations chez les parents d'élèves, c'est le même mouvement que l'arrivée aussi du bio en France qui date de bien avant, puisque la chaîne La Vie Claire, c'est la fin, c'est 1946 qui était racheté par Bernard Tapie, ce qui est quand même très drôle, au début des années 80. Mais ce bio et ce végétalisme, etc., évidemment propulsé par le réchauffement climatique, il était là bien avant.
Oui, c'était là, mais avec des significations différentes. Moi, je crois que ce qui apparaît à partir des années 2000-2010, c'est une espèce de morale politique ou individuelle, comme on veut, qui apparaît dans nos assiettes. Jusque-là, à la limite, manger, c'est carnaval. C'est au contraire l'anti-moral. Je fais ce que j'ai envie. C'est gargantuesque. On a quand même une tradition en France de Gargantua, Pantagruel, et manger, c'est aller contre la morale.
Mais alors là, c'est une morale, religieuse, une morale climatique, une morale sanitaire. Il faut manger moins gras, tout.
Toutes les morales s'invitent à table. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et toutes les morales qui, effectivement, peuvent être religieuses. On n'a jamais autant respecté le halal, le gâcher, etc. On a les morales qui vont être des morales plus civiles, le savoir est-ce que c'est bon, est-ce que c'est bon pour l'environnement, est-ce que ça va pas trop voyager, ça va donner
le localisme, animale,
le spécisme,
donc les véganes,
voilà,
le sans gluten, le sang, pour la
alors
santé.
Là c'est la morale médicale, ou en tout cas qui s'annonce comme telle, c'est-à-dire que ça me fait du mal. En tout cas, voilà. Donc, on a toutes les morales géniques, hygiénistes, on a toutes les morales qui s'invitent à table et qui vont cohabiter.
Et cohabiter ou pas, alors. Est-ce
peut-être,
qu'au milieu, au milieu de toute cette souffrance, finalement, qu'on s'inflige dans notre assiette, est-ce qu'on peut retrouver ou trouver un chemin commun à défaut d'un menu en commun ?
C'est toute la question, effectivement. Moi, j'ai envie de dire que oui, parce que mon idée, c'est la cuisine de rue qui est présente en Afrique, par exemple, ou en Asie. Mais je me souviens, je la connais bien, par exemple, à Johannesburg. J'ai vu des food courts de Johannesburg qui sont très beaux. Et donc là, on voit quoi ? On rentre dans une cour et à l'intérieur, tout autour, il y a plusieurs stands dans lesquels il y a celui qui fait de la salade, il y a celui qui fait du poulet, il y a celui qui fait de la cuisine chinoise, etc. Et finalement, on peut très bien venir à 10, chacun achète le plat qu'il a envie et on se retrouve quand même au centre, autour de la table commune. Et j'ai espoir que ce soit ça, la société française. J'ai envie qu'on puisse avoir toutes nos différences et qu'on puisse quand même s'asseoir à une table commune. Mais c'est tout le débat politique de la France aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qui nous fait peuple ? Qu'est-ce qui nous fait ensemble ?
Mais aujourd'hui, quand on mange au quotidien, en France ou ailleurs d'ailleurs, dans pas mal d'autres pays, est-ce qu'on sait en fait d'où vient ce qu'on mange ? C'est-à-dire, je ne sais pas, je pense à... si on cuisine des légumes grillés au four, ça vient d'où ? Il n'y a plus de référence culturelle à rien, non ?
Ben c'est ça. C'est des chefs comme Otto Lenghi, par exemple, qui arrivent à tout mélanger, toutes les références. Avant, on allait vraiment... Vous savez, on a tous connu ça. Je vais te faire un repas chinois ou je vais te faire un repas
italien,
etc. Maintenant, c'est... Alors, j'ai pris le piment qui vient de là, les légumes qui viennent de là, tel... Et chacun va choisir, picorer dans le monde. On est un monde mondialisé. On est des réseaux sociaux et d'Internet et dans lequel on se moque des frontières pour inventer sa propre cuisine.
Cette cuisine quinoa qui vient de nulle part, ça serait ça
qui, d'ailleurs, qui
était cultivée initialement en Amérique du Sud et qui est cultivée maintenant aussi en France.
Oui, c'est ça, oui.
Merci Jean-Louis André. Il faut vous lire « Dis-moi ce que tu manges, une histoire de la France à table ». C'est publié chez Odile Jacob. Merci beaucoup d'être venu dans l'émission.
Merci.
Dans quelques instants, le monde des enfants, la série, je vous le rappelle, est disponible aussi en podcast. Elle donne la parole aux enfants sur de grands sujets. Nous parlerons aujourd'hui de l'amitié. Ça sera juste après le choix de Romain Dubrac. Ça mène chaud.
Hello stranger, the girl's in danger. But you won't fight hard enough to save her. Said it ain't your issue, cause it ain't your sister. It ain't your missus, you don't care to do ya. Cause if that were me, I would've, ooh, maybe I would've thought for a second and said maybe I shouldn't. There's blood on my hands after all. Oh God, there's blood on my hands after all. Bow my head, said my prayers. I'm the good one, ain't I? Wash my hands of all my sins. I'm the good guy, ain't I? If everyone were like me, could there be the change I'd like to see? Ain't I good? Ain't I right? Did I try? But if I cared, I'd give more than thoughts and prayers. The burden's more than yours to bear. But ego's on my side. Am I as good as I say if I tried? Do we try?
try, we try, we try. Do we try, we try, we try. Hello partner, the world's got problems, and you won't work hard enough to solve them. Cause you hate Christians, and you hate Muslims, and you might kill over race and color. If that had been someone that I knew, then I would've probably laughed at his race jokes when I shouldn't. Cause there's blood on my hands after all. Cause there's blood on my hands after all. Bow my head, said my prayers, I'm the good one, ain't I? Wash my hands of all my sins, I'm the good guy, ain't I? If everyone were like me, could there be the change I'd like to see? Ain't I good, ain't I right, did I try? But if I can, I'd get more than dogs and prayers. The burden's more than yours to bear. My ego's on my side, am I as good as I say if I won't try? Ooh, we try.
Chez 7 milliards de voisins, ce sont des débats à hauteur d'enfant sur de grands thèmes philosophiques comme l'amour, l'avenir, la peur et aujourd'hui l'amitié. Charlie Dupiau a fait passer le bâton de parole au sein d'un groupe de filles à Saint-Aubin, un petit village de Lyon en Bourgogne. Luna, Augustine, Naomi, Liv ont entre 9 et 10 ans. Elles se connaissent depuis l'école maternelle. Elles sont aujourd'hui dans la même classe de CM1.
RFI.
Le monde des enfants.
On discute entre nous. Entre enfants.
Parmi quatre,
on rigole ensemble surtout.
Qui fait des blagues dans le groupe ?
Luna. Oui, moi, mais aussi Augustine quand même.
On a fait une la dernière fois.
Celle avec le kangourou qui arrête pas de s'échapper de son enclos. Un jour, le directeur du zoo, il décide de rajouter 1 mètre de grillage. Il s'échappe quand même. Il fait rajouter 3 mètres de grillage. Il s'échappe quand même. Du coup, il décide de faire rajouter 10 mètres de grillage et il s'échappe quand même. Et t'as un éléphant qui lui demande « Mais quand est-ce que tu vas arrêter ?» Et le kangourou lui répond « Quand ils penseront à fermer la porte de mon enclos. » Elle l'a fait une seule fois et après, ben, on se les répéterait entre nous.
Donc, entre vous, à quel moment vous vous voyez ?
À l'école.
À la récré, à la cantine. Aux anniversaires, souvent. Ou quand on invite une copine pour faire une soirée pyjama.
Aux anniversaires, on a fait beaucoup de soirées pyjama.
Bah, on fait des nuits blanches.
Bah, on parle d'Harry Potter.
Et moi, je m'endors toujours.
Elle a résisté. Jusqu'à 1 ou 2 heures du matin.
On est obligé d'éteindre la lumière parce que sinon les parents ils vont savoir. Donc en fait, on voit rien de la chambre.
Et on a une lampe et des fois on pointe comme ça. Et un jour on avait pris une poupée et on était sur le lit. Et Liv elle était sur son oreiller. Elle prend la lampe torche, elle fait ça et là du coup il y a une ombre qui apparaît. Et du coup ouais, ça me fait peur parce que c'est derrière moi et je vois pas ce qu'il y a. En plus il y a une porte.
T'as peur que la poupée soit vivante, en gros.
Oui, c'est ça, exactement.
Ça me fait les mêmes frayeurs, parce que quand vous racontez des histoires entre vous, moi, je reste tout le temps avec vous, parce qu'après, je m'ennuie. Mais du coup, ça me fait peur à chaque fois. Une fois, quand c'était à la soirée pyjama, on a tous un petit peu parlé des garçons qu'on aimait bien, mais en tant que copains.
Liv, tu nous avais dit que t'étais amoureuse de quelqu'un, nous.
Tu nous as juste dit que tu l'aimais bien, tu nous as demandé de le répéter à personne. Donc nous, c'est ce qu'on a fait.
J'ai confiance parce que, bah oui, on se connaît depuis la petite section.
Et moi, j'ai parlé de Gabriel. À un moment, oui, j'ai été amoureuse de lui.
Est-ce que toi, tu as dit à tes amis que tu étais amoureuse au moment où tu l'étais ?
Non, je ne l'ai pas dit. Elle l'a dit après. Je dis pas souvent des trucs sur moi, mes copines, je sais pas pourquoi.
Ça nous fait rien, elle a le droit de garder ses secrets.
En même temps, nous n'avons pas beaucoup de secrets, donc...
Il y a d'autres émotions que vous vivez ensemble, parfois. On a parlé de la peur, on a parlé...
La joie.
La joie, le rire.
La tristesse. Parce que des fois, y a quelques petites chamailles, comme dans tous les groupes d'amis. Mais ça dure 2 minutes avec nous. Ça se termine par un gros câlin et puis c'est tout.
Pas vraiment, non.
La dernière dispute, c'était quand vous n'étiez pas d'accord sur un jeu. On était enfermés dans une cage et Luna, elle disait il y a des roulettes. Et Liv, elle a dit non, il n'y a pas de roulettes. Et vu qu'on avait des pouvoirs dans le jeu, bien sûr. Et Liv, elle disait non, c'est trop facile. Et là, il y en a une qui s'est mise dans un coin et une qui s'est mise de l'autre côté. Et voilà, c'est ça la dernière dispute.
Parce que vous n'étiez pas d'accord sur le scénario de votre jeu imaginaire, c'est ça ?
Oui, le réalisateur n'était pas d'accord.
Puis de toute façon, après, c'était la fin de la récré, donc... Nos disputes ne durent jamais...
1 heure. Si c'est un peu plus qu'une heure, je dirais qu'il y a un problème, parce que
c'est disputé vraiment longtemps, au moins une demi-journée. On s'est disputé très longtemps, mais le soir, on était amis et du coup on est partis à la maison toujours sans problème.
C'est quoi l'amitié pour vous ? Qu'est-ce que ça veut dire le mot amitié ?
Quelqu'un qui est là pour toi quand par exemple tu pleures.
T'as des coups de mou, t'as des coups de cafard.
La mamie d'Eliv, elle était à l'hôpital parce que elle avait mal à la jambe. Et là, on jouait à la balle américaine. Et là, elle est en pleurs. Et du coup, moi, je viens pour lui faire un câlin. Et là, je dis, viens, on va sous le préau. C'est plus calme parce que là, il y a tout le monde qui la voit et tout et tout. Du coup, je lui fais un dernier câlin. Et après, elle pleure plus.
Et on a essayé de lui faire penser à autre chose, sauf qu'elle avait toujours une raison de penser à sa mamie.
À votre avis, toutes les quatre, qu'est-ce qui pourrait faire que vous ne soyez plus amis ?
La fin du monde !
On est trop amis pour faire une grosse dispute qui puisse nous séparer.
Si on se sépare, c'est parce qu'il y en a une qui doit déménager très loin ou qui doit changer d'école.
Une fois, j'ai failli déménager, du coup ça m'a fait peur. Parce que je voulais pas être loin de mes copines, quoi.
En même temps... Les amis, les parents, ça se voit pas régulièrement comme nous.
Ils jouent pas à Harry Potter. Hein.
Très bien. Oui. Moi, je préfère quand on est maintenant parce qu'on se voit plus souvent et on a plus de temps pour être ensemble. Oui, les parents, ils sont souvent occupés et du coup, ils se voient pas très très souvent. Mais par rapport à nous, ils se voient pas très très souvent avec leurs copains.
Et ils ont pas de récréation.
Moi je préfère l'amitié maintenant parce qu'après tu en pourras plus faire les fous.
Ah, je fais de la magie.
C'était le 8e épisode de la série Le Monde des Enfants, disponible en podcast sur les plateformes de téléchargement. C'est signé Charlie Dupio. Alors si vous aimez entendre la vérité de la bouche des enfants, laissez des commentaires, des likes et partagez.
7 milliards de voisins, de voisines, 7 milliards d'êtres humains, tous identiques, tous différents, appelés à vivre sur une toute petite planète, 7 milliards de frères et de sœurs.
Lundi, 7 milliards de voisins, nous serons de retour pour une nouvelle émission. À lundi, les voisins.
7 milliards de voisins, c'est fini.